Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le salon automobile de Francfort, organisé tous les deux ans en alternance avec celui de Paris, ouvre ses portes au public demain. Il a été inauguré aujourd'hui par la chancelière allemande Angela Merkel. Elle n'a pas été particulièrement tendre avec les constructeurs allemands et notamment Volkswagen, pris dans la spirale du Dieselgate. De nombreux pays comme la France ou la Chine annoncent des mesures pour bannir la vente et la production de véhicules à énergie fossile. Les constructeurs du monde entier rivalisent d'ailleurs avant ce salon d'annonce pour annoncer l'électrification massive et prochaine de leurs véhicules. Mais cela pose des questions d'adaptation de l'outil productif automobile et énergétique, mais aussi de consommation et d'usage de l'automobile. Peut-on radicalement changer le secteur automobile et comment le faire? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, nous avons le plaisir d'avoir deux invités avec nous en studio. Joseph Beretta, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes président de l'AVER France, une association, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Et Bernard Julien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'industrie automobile. Alors depuis l'affaire des émissions truquées des moteurs diesel aux États-Unis notamment, la crédibilité de l'industrie automobile a été mise en doute. Alors quand on annonce l'électrification massive des nouveaux modèles, peut-on y croire ou sommes-nous dans l'effet d'annonce, Joseph Beretta?
Je pense que c'est une bonne chose et il faut se mettre tout ça en perspective. C'est-à-dire quand on annonce 2040 la fin du véhicule essence et diesel, il faut mettre en marche un certain nombre de choses. Premièrement, si on veut basculer sur l'électrique, c'est clair, il faut aussi prendre en compte la partie alimentation énergétique de ces véhicules. Et après, il y a toute la partie production et l'usage. Et ne pas oublier finalement qu'est-ce qui pousse dans ce sens-là. C'est pas juste le plaisir de dire je veux remplacer l'essence ou le diesel, c'est quand même répondre à des challenges majeurs de la planète, c'est-à-dire le réchauffement climatique, la qualité de l'air et plutôt même je dirais la qualité de vie, et quelque part l'indépendance énergétique. Et si on adresse tout ça, ben, la mobilité électrique apporte une certaine réponse.
Bernard Julien, est-ce que c'est réaliste de dire qu'en 2040, on vendra plus de voitures à énergie fossile en France?
Alors, il y a clairement un effet d'annonce hein, de la part des politiques qui essayent de forcer un peu la main des constructeurs dont ils estiment qu'ils utilisent trop volontiers l'idée selon laquelle l'industrie a une temporalité qui n'est pas celle-ci pour ne rien faire éventuellement. Hein. Donc il y a une espèce de bras de fer en partie discursif, si vous voulez, qui conduit à faire des annonces extrêmement vigoureuses. Hein. On a vu ça avec Hulot chez nous, on a vu ça en Angleterre récemment, on a vu ça en Chine aussi.
Il y a les annonces politiques, mais il y a aussi des annonces massives des constructeurs là, avant ce salon. Voilà. Parce que là aussi, on est un petit peu dans l'effet d'annonce.
On est aussi un peu dans l'effet d'annonce, parce que après, quand on décortique un peu les choses, on s'aperçoit qu'ils disent qu'ils vont électrifier leur gamme, mais les modes d'électrification, vont-ils s'empresser de dire, sont très diversifiés. Hein, il y aura de l'hybride, hein, il y aura du mild hybride éventuellement, hein, donc on pourra dire que toute sa gamme est électrifiée en 2020 ou 2022, mais ça peut vouloir dire que on a fait du start and stop aussi bien qu'on a fait des véhicules qui sont complètement électriques. Hein. Il n'en reste pas moins que par rapport à un dossier que nous connaissons l'un et l'autre et qui avait un petit peu eu tendance à stagner entre 2011 et 2015, on a connu depuis 18-24 mois une vraie accélération qui est liée en partie à l'affaire Volkswagen, qui est liée aussi à une certaine maturité, je dirais, des sociétés, enfin de beaucoup des sociétés concernées par rapport à cela. Et puis très clairement, il y a une dimension politique. Hein, il y a le fait que on ne veut plus s'en laisser compter par des constructeurs qui semblent avoir baladé un petit peu et les citoyens et le politique depuis un certain moment.
Vous avez abordé une partie du problème. Joseph Beretta, donc vous militez pour le développement de la mobilité électrique. Est-ce que l'avenir est au 100% électrique ou est-ce que c'est plus fin que ça quand même?
C'est quand même plus fin parce que je pense que en fonction des usages et même des véhicules, parce que électrifier 100% électrique à batterie, parce que quand on a dans sa tête véhicule électrique, on pense véhicule électrique à batterie. Donc par exemple, si je veux prendre un poids lourd à batterie pour traverser l'Europe, aujourd'hui ça va être assez compliqué, même demain. Donc il y a certains usages qui resteront finalement pas accessibles aux véhicules à batterie. Par contre, on voit aussi se profiler d'autres technologies qui pourraient prendre de la place, comme l'hydrogène. Et si on veut basculer à la mobilité
électrique... La pile à combustible.
C'est l'hydrogène, effectivement. Si on parle hydrogène, mobilité électrique, c'est de la pile à combustible. Générateur d'électricité embarqué dans le véhicule, on remplit en hydrogène et je fais mes 500, 600 kilomètres. Et je peux même avoir du sens si je mets ça sur un poids lourd. Bien sûr, on n'en est qu'au début de cette technologie. Donc, demain, il faut bien voir que ça va pas se faire du jour au lendemain. On n'a pas une baguette magique, même si les politiques ont une conviction forte. C'est pas un coup de baguette magique qui va me remplacer mon parc, en remplacer tous les moteur thermique, essence, diesel en moteur électrique. Donc, il y a de la place pour une certaine mixité pendant un certain temps.
Alors, bon, il y a deux problématiques. Il y a une problématique des immatriculations, puis il y a les problématiques des parcs. Alors, on pourra aller relativement vite, et encore, sur les immatriculations. Par contre, évidemment, le parc, il a une inertie qui est assez extraordinaire, hein, puisqu'aujourd'hui, chaque année, on doit renouveler quelque chose comme 6 à 7% du parc dans un pays comme le nôtre. Et par conséquent, la coexistence de véhicules thermiques et véhicules diesel va durer plutôt 50 ans que 12, quoi. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
Actuellement, là, la part de l'électricité de l'électrique, du 100% électrique, je pense à des modèles. Allez, on va les citer. La Leaf, la Zoé, c'est combien de...
Ça a dépassé le 20%, mais ça peine à dépasser le 20%.
Ouais, c'est ça, oui.
Oui, alors ça dépend si vous parlez, et d'ailleurs, c'est à peu près pareil si vous parlez Europe, France ou monde. Mm-hmm. On est au-dessus de 20%, ce qui est quand même significatif. Et par contre, moi, je regarde plutôt la croissance de ce marché. Parce que 1%, c'est pas grand chose, mais si c'est 1% qui croît très vite dans les années qui viennent, ça peut aller rapidement à 10%.
C'est plus facile d'avoir de très belles croissances sur des volumes minables, quoi, aussi. Hein.
Donc, c'est plus facile de partir de pas grand-chose.
C'est indéniable que, si vous voulez, ce qui n'était que l'épaisseur du trait commence à prendre un petit peu de consistance. Et sur la Chine, on a, parce que 1 ou 3%, hein, là on est aux alentours de 1,8-2% du marché chinois, ça commence à faire des volumes importants, donc à permettre des baisses de coûts, donc à impliquer des investissements relativement lourds, etc. C'est évidemment un effet de ce type-là qu'on souhaite un peu partout dans le monde.
Alors, on en parlait il y a quelques instants, il y a le problème de l'usage de l'automobile, les performances des automobiles électriques, elles sont bonnes, ça accélère même plus fort maintenant qu'une voiture à essence, mais il y a deux problèmes majeurs, et pour le ramener à l'échelle de la France, on ne peut pas faire Paris-Lyon avec une voiture électrique à l'heure actuelle, et on ne peut pas faire le plein en 10 minutes.
La technologie quand même évolue très vite, puisque hier, je pouvais même pas faire mes 300 km avec une voiture populaire électrique. Aujourd'hui, avec la nouvelle Zoé, je peux faire mes 300 km. Donc demain, si les batteries continuent d'évoluer, je pourrais arriver à 500 km. Après, on tombe sur le problème de la recharge rapide ou ultra rapide, c'est-à-dire combien de temps il faut que je m'arrête pour reprendre autant d'autonomie. Donc là, c'est le problème qu'il faut travailler en même temps, c'est-à-dire il faut à la fois travailler le véhicule, travailler la recharge, travailler le réseau électrique. C'est pour ça que c'est pas seulement dans la main des constructeurs, et c'est pour ça que les politiques doivent s'impliquer pour justement faire bouger tout cet écosystème, et pas seulement les constructeurs automobiles. Il faut aussi que les réseaux électriques évoluent, parce qu'il faut, si on veut tenir les engagements de bas carbone, il faut que l'électricité soit décarbonée dans tous les cas d'usage du véhicule.
Oui. Ça pose la question du nucléaire, évidemment.
Ça pose la question des renouvelables. Mais tout ça est en train d'être instruit, et quand on se fixe à 2040, il faut que tous ces acteurs travaillent ensemble pour faire en sorte que ça soit une réussite. C'est-à-dire, si je supprime le nucléaire, je le remplace par des renouvelables, il faut utiliser finalement le stockage électrique comme une opportunité pour les futurs réseaux. Et pas juste se dire ça va être une contrainte de demande de puissance, ça peut être aussi une opportunité. Aussi bien les batteries que l'hydrogène, qui est aussi un vecteur de stockage. Donc tout ça, il faut que ça avance de pair. Et le challenge de demain, si on veut arriver à quelque chose de réaliste, c'est de faire tout avancer en même temps.
Et pour ça, Bernard Julien, le rôle de l'État est fondamental, de tout coordonner ?
Alors, c'est pas forcément à l'État de tout coordonner. Hein. Ce qu'il y a de clair, c'est que on a besoin aujourd'hui en Chine, en Inde, ici, que se noue une espèce de New Deal autour de l'automobile. Hein. On sent bien que les formes qu'avait connues le développement de l'automobile, sur le plan énergétique comme sur le plan écologique, ne sont pas soutenables. Donc, rechercher une nouvelle soutenabilité, une nouvelle place de l'automobile dans la ville, dans les systèmes énergétiques, etc., c'est un travail, je dirais, démocratique, quoi. Et je trouve finalement assez sain que l'espèce de dialogue entre État et constructeurs, ou entre constructeurs et consommateurs, se complexifie un petit peu pour que ces questions-là soient enfin posées. Hein, on sent bien que le véhicule électrique, bah, il appelle des formes d'usage aussi un peu différentes, parce que sinon vous allez avoir autant de voitures électriques que vous n'aurez de voitures thermiques, et on n'aura pas résolu le problème de l'encombrement. Hein, donc il y a tout cela qui est en balance, et je crois qu'il y a une forme de démocratie automobile qui doit s'associer à ce mouvement de réforme.
Vous écoutez le débat, l'avenir de l'automobile, comment changer radicalement ou moins radicalement la production d'automobiles pour s'adapter à de nouveaux usages et pour favoriser des usages de l'automobile électrique. On en a parlé un petit peu, hein, adapter la production électrique, ça va être un des enjeux, la consommation va être en hausse actuellement. J'ai lu ça en préparant cette émission, vous allez peut-être me détromper. On me dit que deux recharges rapides, avec les techniques les plus récentes pour recharger une automobile, c'est une journée de consommation d'un HLM.
Ça dépend quelle rapidité vous prenez en compte.
Oui, Joseph Beretta.
Oui, il faut plutôt parler de puissance. Mm-hmm. Effectivement, on dit déjà, si vous avez une recharge un peu classique, 3 kilowatts, c'est un chauffe-eau. Si vous avez une recharge un peu plus rapide, 22 kilowatts, vous êtes plutôt au niveau d'une habitation, d'un petit immeuble. Effectivement, vous avez aussi des recharges qui, si on veut recharger en 10 minutes, qui vont dépasser les 100 kilowatts. Donc là, vous voyez, on a en capacité de puissance, il faut bien faire le ratio des deux. Puissance, énergie, c'est pas la même chose. En capacité de puissance, j'arrive à la même puissance que peut prendre ce petit immeuble, mais en énergie, non. J'en suis bien loin. Et c'est là le gros problème. Mmh. On n'a pas de problème d'énergie sur le réseau électrique. On va avoir un problème de puissance.
De distribution de la puissance de l'énergie.
Oui,
comment l'énergie est produite. Enfin, comment distribuer l'énergie produite.
Comment finalement les consommateurs vont prendre l'énergie. S'ils prennent beaucoup d'énergie, pas d'énergie, beaucoup de puissance en même temps, le réseau pourra plus fournir cette puissance. On a cette limite, c'est en puissance. Donc il faut faire de la programmation de charge de façon à ce que vous rechargez votre véhicule, vous n'êtes pas obligé de vous brancher tous à 6 heures du soir quand vous rentrez, mais décaler le branchement pour que le lendemain le véhicule soit complètement chargé. Ou alors, après, c'est ce qu'on appelle un peu les smart grids, se mettre en place tout un système qui vous incitera à recharger quand le réseau finalement est disponible par la tarification, par des abonnements spécifiques, etc.
Alors, on vient de parler d'adapter l'outil de production électrique et de distribution électrique. Il y a aussi, évidemment, un aspect fondamental, c'est adapter l'outil de production automobile. Le cœur du réacteur d'une automobile, si je peux dire ça comme ça aujourd'hui, c'est le moteur. C'est là que l'essentiel de la recherche développement se fait, je crois, Bernard Julien, sur les moteurs à explosion, comment les faire évoluer, comment les rendre moins polluants.
C'est vrai que quand vous prenez la direction dite de la mécanique, hein, dans les ingénieries des grands constructeurs mondiaux, c'est effectivement 40-50% des effectifs totaux, et par conséquent il y a un vrai défi en termes de compétences, de redistribution des compétences, de type d'ingénierie à réunir. Hein. Il n'en reste pas moins que les constructeurs, ils passent quand même l'essentiel de leur temps à essayer de rendre leur véhicule sexy, à renouveler les gammes, etc. Hein, et par conséquent, cette idée selon laquelle on va avoir une espèce de tornade dans le passage d'une motorisation à l'autre est surévalue un peu le renouveau que ça implique. Et puis, il faut bien dire aussi que, comme on le sait tous, 80% de la valeur des véhicules aujourd'hui, elle n'est pas créée par les constructeurs, mais par les équipementiers. Hein, équipementiers qui, eux aussi, sont mis en ordre de bataille. On voit bien que Renault, par exemple, qui fait des véhicules électriques, avait sous-traité ses turbines pendant les premiers temps et puis a fini par les réintégrer. Hein, donc tout ceci est en préparation. Ce que fait le politique aujourd'hui, c'est d'obliger les constructeurs à accélérer un mouvement qu'ils auraient fait à marche très lente s'il n'y avait pas eu cette pression très forte qui se dessine depuis deux ans maintenant.
Alors il y a un coût économique, ce sont des milliards d'euros d'investissement, c'est ce qu'on entend de la part de Volkswagen, de la part de Mercedes, de Daimler. Est-ce qu'il y aura aussi, il faut prévoir ça, un coût social, un coût humain, puisque des gens qui sont habitués à construire des voitures et qui travaillent en mécanique depuis des années et des années, ça va être un autre métier. Est-ce que les usines vont se trouver aux mêmes endroits? Est-ce que ça va changer un petit peu, ça, Joseph Beretta? Est-ce qu'il faut s'attendre à un coût important de ce point de vue-là?
Je vais donner mon point de vue, mais je pense que Bernard est beaucoup plus compétent là-dedans. Mais le fait d'électrifier finalement un véhicule, ça simplifie quand même le véhicule. Et il faut bien voir qu'au niveau de la fabrication, les moteurs sont complètement fabrication automatisée. Après, on assemble un véhicule. Ça va juste changer quand même quelques contraintes, parce que précédemment, on avait du 12 volts dans le véhicule. Là, on met quand même des batteries de 300 volts. Donc, il y a quelques spécificités à respecter. Mais je dirais, ça se fait pratiquement. Je pense que le plus gros bouleversement se passera sur la maintenance. Parce que autant vous avez beaucoup de maintenance sur un véhicule à moteur à explosion, à combustion interne, où il faut changer l'huile, les filtres et beaucoup de choses, autant sur un moteur électrique, maintenance zéro.
Bernard Julien.
Oui, alors effectivement, il y a des défis sur le plan des compétences et de la gamme des compétences dont il va falloir revoir. Hein, la composition aussi bien en ingénierie que dans les usines, et puis évidemment dans l'ensemble de la chaîne de valeur derrière, et par exemple dans les services, quoi. Alors c'est vrai des tâches de maintenance, hein, donc il y aura encore des liaisons au sol, etc., mais toutes les opérations qui étaient liées à la dépollution, par exemple, hein, les grosses pannes que vous avez aujourd'hui sur les véhicules, c'est les vannes EGR, c'est des éléments comme ça qui a priori sortent du cahier des charges. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins d'emplois ou non? Ça dépend en grande partie de la manière dont on va négocier les choses, parce qu'il y a aussi une partie, si on se met à partager davantage les véhicules, on le voit très bien sur un système comme Autolib, il y a d'autres boulots qui sont créés pour essayer de redistribuer ça, il y a toute une ingénierie des algorithmes qui permet de faire ça mieux, etc. Hein, donc il y a aussi un redéploiement des compétences avec évidemment cette question de savoir quelle sera la part qui relèvera des constructeurs et quelle sera la part qui se promènera dans d'autres secteurs qui relèvent davantage du numérique, des services, peut-être de la RATP, peut-être de Keolis, peut-être d'un certain nombre de start-up.
Alors, on a l'impression quand même, quand on voit tout ça, c'est que tout le monde a l'air d'admettre qu'il faut mettre davantage de véhicules électriques, de véhicules hybrides, enfin, faire rentrer davantage l'électricité dans l'automobile. Il y a une voix discordante qu'on a entendue ces derniers jours, discordante relativement, c'est celle de Carlos Tavares, le patron de PSA, qui craint d'autres catastrophes écologiques et de santé publique. Alors, est-ce qu'on connaît vraiment les implications de la construction et du recyclage de batteries?
Oui.
Oui?
Oui, oui, clairement.
Joseph Beretta.
Clairement, recycler une batterie, aujourd'hui, tous les process existent et, je dirais, sont opérationnels. Le rendement de recyclage en masse pour le lithium, par exemple, aujourd'hui, est de l'ordre de 60%. Et il y a des process qui sont en phase de mise au point qui permettront d'aller à 90% de recyclage en masse. Donc, on va réutiliser les matériaux qui ont servi à construire la batterie pour refaire des batteries ou pour d'autres utilisations.
Ça redeviendra de la batterie.
Ça redeviendra de la batterie en partie. Tout ça, ça permet d'abaisser finalement ce qu'on appelle l'impact global du véhicule, parce que la batterie, ça change l'impact du véhicule quand je passe à la mobilité électrique. Principalement, l'impact du véhicule dans l'analyse de cycle de vie, c'était l'usage du véhicule, c'est-à-dire les émissions qui recrachaient quand le moteur fonctionnait. Là, ça va être aujourd'hui, quand je passe à l'électrique, l'impact prédominant, c'est la fabrication de la batterie. Et donc, pour alléger cette fabrication, il faut recycler ou il faut pouvoir allonger le temps d'usage de la batterie. Et on réfléchit aussi à ça, c'est-à-dire deux vies de la batterie. Première vie dans le véhicule, deuxième vie en stockage d'électricité pour supporter les réseaux de demain.
Bernard Julien, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Carlos Tavares, là? C'est quoi le message?
Le message est assez ambigu parce qu'il dit je vous dis cela, mais en même temps, je ne suis pas audible parce que je suis constructeur. Donc, c'est une manière d'essayer de dire... Je suis très énervé parce qu'est en train de se passer, mais en même temps, je risque de ne pas pouvoir m'y opposer réellement, quoi. Alors évidemment, il tient un discours qui est censé être un discours de citoyen, mais c'est un constructeur qui le tient. Donc on sent bien que il est à la croisée des chemins, et l'automobile est en partie à la croisée des chemins. On a cessé de pouvoir résister en faisant une espèce de chantage à l'emploi, aux émissions, etc.
Il y a eu une bascule dans la tête des gens, là.
Oui. Visiblement, quand on entend Tavares, on se dit qu'elle n'est qu'à demi-faite. Hein. Mais il y a bien cette idée...
Non, mais dans la tête du consommateur, c'est ce que je veux dire.
Dans la tête du consommateur, oui.
Je pense que le politique, si vous voulez, quand on écoute Merkel juste avant Tavares, ou quelques heures d'intervalle, on a bien une solidarité assez forte qui demeure, hein, entre Merkel et ses constructeurs. En même temps, elle ne peut pas l'avouer auprès des électeurs et des citoyens. Hein, il y a donc bien un nouveau deal, hein, un nouvel équilibre politique qui est en train de se créer, et Tavares, il va bien être obligé de s'apercevoir que tel est le cas, et qu'il faut que, quels que soient ses desiderata à lui, il accepte qu'il faut dealer différemment son sort et celui de ses ingénieries.
On s'est terminé, je suis désolé, on n'a plus le temps, il nous reste 15 secondes. Merci Joseph Beretta, merci Bernard Julien, on va s'arrêter là. Merci également à Quentin Bresson qui était à la réalisation de cette émission et à Florence Ponce qui l'a préparé. À demain pour un nouveau débat.